France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, les Athéniens étaient très fiers de dire qu'ils avaient toujours habité le même coin, qu'ils n'avaient jamais bougé de chez eux.
Nous représentons le peuple le plus ancien de la Grèce, et nous sommes les seuls parmi les Grecs à n'avoir pas changé de demeure.
Ces mots, les Athéniens les auraient prononcés lors d'une négociation difficile avec des chefs politiques d'autres cités grecques. Ils nous sont rapportés par Hérodote, historien du 5e siècle avant notre ère. Cet enracinement depuis toujours dans leur terre, la terre d'Athènes, leur donnait des droits sur les autres cités, pensait-il. Les autres Grecs, contrairement aux Athéniens, avaient été ballottés par l'histoire. Ils venaient de droite et de gauche, ils émigraient, étaient envahis, se déplaçaient. Leur ville était faite de mélanges, d'apports étrangers. Seuls les Athéniens, pensaient les Athéniens, étaient restés purs, non mêlés, identiques à eux-mêmes, car attachés à leur terre depuis leur origine.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Cette idée était très active dans la vie politique et militaire d'Athènes. L'ancienneté du peuple athénien, son attachement à sa terre, faisait que les Athéniens ne pouvaient pas être commandés par un étranger. Les Athéniens, si fiers d'eux-mêmes, qu'Hérodote, l'historien, nous a fait entendre, rappellent qu'en raison de leur origine, ils ont toujours été les meilleurs soldats. Ces Athéniens rappellent qu'Homère, dans son Iliade, dit que le chef athénien qui a participé avec d'autres chefs grecs à la guerre de Troie était le meilleur de tous.
Et les hommes qui tenaient Athènes, la citadelle bien bâtie, Ménestée, le fils de Pétéos, les conduisait. Aucun homme sur terre n'a encore été son égal pour mettre en ordre les chevaux et les hommes armés de boucliers.
Il y a plus de 60 ans que nous sommes en guerre contre Sparte. Plus de 60 années que nous défendons la liberté contre ceux qui veulent asservir les autres.
Être lié à sa terre, cela signifie qu'on est sous l'autorité de personne qui serait venu de l'extérieur. On est autonome et on a toute la valeur nécessaire pour mener efficacement une guerre. Ayant tous la même origine, les combattants athéniens savent s'organiser, se mettre en ordre pour la bataille. Ils ne font pas n'importe quoi, mais sont solidaires. Le problème, c'est que dès l'Antiquité, on a pensé que ces vers attribués à Homère ont été en fait ajoutés à l'Iliade par les Athéniens pour leur propre gloire. Ce Ménesté, chef des Athéniens pendant toute la guerre de Troie, ne fait rien de remarquable dans toute l'Iliade. Les Athéniens allaient même jusqu'à dire qu'ils étaient les enfants de leur sol, de leur terre, qu'ils considéraient comme étant leur mère à tous. La terre athénienne n'était pas pour eux une mère symbolique, sentimentale, comme il peut nous arriver de parler avec ferveur de la mère patrie, quand la patrie est en danger et qu'il faut la défendre. La terre athénienne était pour les Athéniens leur mère réelle, physique. Ils étaient, comme on dit, autochtones, c'est-à-dire nés de leur propre sol. Le mot « autochtone » est fait à partir de « ktone », le sol, la terre, et de « auto », en propre, même. Les Athéniens se croyaient nés de leur sol même. C'était, selon eux, un immense privilège.
Dimitri Elmur, philosophe.
On fait croire aux citoyens qui sont nés de la terre et donc que la terre est leur mère à tous. En ce sens-là, chaque citoyen a dans son arrière-fond culturel la croyance au fait qu'ils sont tous frères malgré les différences de valeurs qui les caractérisent.
Démosthène, l'orateur démocrate, qui a défendu Mordicus jusqu'au suicide, la liberté d'Athènes face aux conquérants venus du nord qu'étaient Philippe de Macédoine et son fils Alexandre, a souligné la fierté qu'Athènes pouvait tirer de son autochtonie. Il y insiste dans un éloge des Athéniens morts à la guerre.
La noble naissance de ces soldats est reconnue depuis la nuit des temps par toute l'humanité. Car ce n'est pas seulement à un père et à des ancêtres en amont qu'on peut rapporter leur naissance à chacun individuellement, mais à la patrie entière, qui est la leur en commun, puisqu'on s'accorde à dire qu'ils sont nés de son sol. Seul de tous les hommes, c'est la terre d'où ils étaient nés, qu'ils ont habité et qu'ils ont légué à leurs descendants, si bien qu'il serait justifié de considérer que les hommes qui viennent en immigrer dans les autres cités et qu'on désigne comme leurs citoyens sont semblables aux enfants adoptifs, tandis que c'est la naissance qui a fait d'eux des citoyens légitimes de leur patrie.
Bigre, Platon, le philosophe, qui n'était pas du tout du même bord politique que Démosthène, mais très à droite, fait prononcer dans une fiction le même éloge de l'autochtonie des Athéniens par Aspasie, la compagne très savante et haute en couleur de Périclès.
De leur excellente naissance, l'origine de leurs ancêtres fournit le premier fondement. Car loin d'être étrangère ou de faire de ses descendants des métèques dans une contrée où leur ascendant n'aurait été que des immigrés, il lui dure d'être autochtone, habitant et vivant dans une patrie au plein sens du terme, nourrie non point par une marâtre ainsi que les autres peuples, mais par la contrée qu'ils habitaient comme par une mère, et de reposer après leur mort en des lieux familiers auprès de celle qui les a mis au monde, nourrie et accueillie en son sein. Rien de plus juste, assurément, que de rendre notre premier hommage à notre mère elle-même.
L'autochtonie, à savoir le fait d'être collectivement issu de sa propre terre, n'était pas compris comme un repli, comme un renfermement sur soi, comme c'est tellement le cas maintenant quand on a peur d'être remplacé par d'autres populations. Les Athéniens ne cessaient de rappeler leur origine autochtone et de s'en vanter, mais ils le faisaient pour rappeler une exigence. Athènes, parce qu'elle est née d'elle-même, était née libre. Et cette liberté initiale, qui faisait qu'elle n'était à l'origine soumise à personne, lui donnait sa puissance. Athènes ne devait surtout pas l'oublier. L'origine, le fait d'être issu de la terre où l'on habite, devait être répété, consolidé, génération après génération. Pour maintenir dans le temps la force de cette origine totalement autonome, il fallait inventer une bonne éducation et un bon régime politique. Comme tout le monde était censé venir de la même matrice, la terre athénienne, qu'on soit grand, petit, moche ou beau, riche ou pauvre, le principe fondamental du régime athénien devait être l'égalité. La seule différence entre les citoyens ne pouvait venir que de leurs compétences.
La plus grande part de la puissance revient dans notre cité au grand nombre, qui confie les charges et le pouvoir à ceux qui paraissent chaque fois se distinguer par leur excellence. Et personne ne s'en est vu exclu à cause de son infirmité, de sa pauvreté ou de ses parents obscurs, ni non plus honoré pour les motifs contraires, comme dans d'autres cités. Mais il n'y a qu'une règle. Celui qui paraît habile ou excellent détient le pouvoir et les charges. Or, la cause de ce régime qui est le nôtre est l'égalité de notre naissance. De fait, les autres cités se sont organisées à partir d'un mélange d'êtres humains d'origine et de niveaux divers, d'où les différences de niveau dans leur régime, tyrannie ou oligarchie. Aussi, parmi leurs habitants, quelques-uns ont pour loi de tenir les autres pour des esclaves et le reste de considérer les premiers comme des maîtres, tandis que nous et les nôtres, tous frères nés d'une même mère, loin de nous estimer esclaves ou maîtres les uns des autres, l'égalité de notre naissance selon la nature nous contraint à rechercher l'égalité de nos droits selon la loi et de ne céder à autrui que s'il paraît excellent et de bon sens.
Chaque nouvelle génération athénienne devait être à la hauteur de la liberté originelle de la cité. C'était une origine active, sans aucune nostalgie, sans idolâtrie du passé. Pour un Athénien, ce n'était pas mieux avant. Il fallait d'abord faire gaffe, à tout moment, de ne pas perdre sa liberté. Les ennemis étaient nombreux, les Perses, qui avaient tendance à se faire envahisseurs, les cités rivales, comme Sparte, les politiciens, qui encourageaient la guerre civile et cherchaient à établir la tyrannie.
Philippe Lafargue, historien.
La démocratie athénienne serait plutôt une oligarchie, puisque Bon, en gros, Athènes, c'est une très grande cité, entre 350 et 400 000 habitants, mais à peine 10% du corps civique, enfin 10% de ses habitants composent le corps civique. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10% de citoyens. Un habitant sur 10 seulement. Les femmes en sont exclues, les étrangers en sont exclus, les esclaves, bien évidemment, en sont exclus.
La liberté, pour un Grec, c'est d'abord une condition réelle, tangible. C'est n'être l'esclave d'aucun conquérant, d'aucun maître extérieur, et n'être soumis à aucun tyran. Né de son propre sol, Athènes ne devait être envahie, asservie par aucune autre cité grecque, par aucun empire étranger, par aucun clan politique. Pour cela, il fallait se battre, en permanence. Les hommes politiques, les écrivains, pouvaient diverger très fortement sur les moyens de renforcer et d'utiliser cette liberté originelle. Pour Périclès, le grand chef démocrate du 5e siècle avant notre ère, la liberté fondamentale des citoyens d'Athènes est leur meilleure protection en cas de guerre. La liberté est leur rempart. Athènes n'avait donc pas à craindre, en temps de paix, de s'ouvrir résolument sur le monde extérieur, d'être accueillante avec les étrangers, contrairement à Sparte, qui ne cessait de contraindre ses habitants et de se renfermer sur elle-même.
Nous nous distinguons également de nos adversaires par notre façon de nous préparer à la pratique de la guerre. Notre ville, en effet, est ouverte à tous. Et il n'arrive jamais que, par des expulsions d'étrangers, nous interdisions à quiconque une étude ou un spectacle qui, en n'étant pas caché, puisse être vu d'un ennemi et lui être utile. Car notre confiance se fonde peu sur des préparatifs et les stratagèmes, mais plutôt sur la vaillance que nous puisons en nous-mêmes au moment d'agir. Et pour l'éducation, contrairement à ces gens, qui établissent dès la jeunesse un entraînement pénible pour atteindre au courage, nous, avec notre vie sans contrainte, nous affrontons au moins aussi bien des dangers équivalents.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Mani, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher, être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, c'est partir qu'on veut, revenir qu'on part. Sa famille, on choisit pas non plus le trottoir de Mani, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit jeunesse égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils?
Pierre Judet de la Combe parle des Athéniens qui s'imaginent enfants de leur propre terre.
Être né libre depuis toujours ne suffisait pas. Il fallait donner aux citoyens une éducation digne de cette liberté initiale. Il fallait se doter d'institutions politiques qui ne produisent aucun asservissement. Et il fallait prendre de bonnes décisions politiques, géostratégiques, extrêmement risquées pour rester libre. L'autochtonie, cette idée bizarre d'une naissance à partir de la terre nourricière, était d'abord un idéal. Mais c'est quand même une idée bizarre, et qui était ressentie comme telle à l'époque. Dire qu'on est tous, dans une ville, nés de la même terre, c'est quand même surprenant. On sait bien qu'on a un père et une mère humaine. Un grand héros pouvait, à l'origine, être né de la terre, pourquoi pas. Mais après, pour rendre possible, crédible, l'idée d'autochtonie collective, de toute une communauté, il fallait inventer des mythes complexes. Il fallait façonner la ville, les monuments, les temples, les lieux, pour que cette idée d'une origine dans la terre devienne une évidence vécue tous les jours, pour qu'elle s'impose. Cela demandait un gigantesque travail d'imagination, d'invention. Et cette obsession des Athéniens pour l'autochtonie est quand même étrange, paradoxale. Pourquoi insister tellement sur la terre ? Athènes n'était pas seulement une ville terrestre. Athènes était maritime, fortement orientée vers la mer. C'est la connaissance, la maîtrise des mers qui a donné aux Athéniens leur pouvoir, leur rayonnement dans toute la Méditerranée. C'est leur supériorité maritime qui leur a longtemps assuré leur liberté et leur domination sur d'autres cités grecques. Poséidon, le dieu de la mer, était aussi l'une des divinités fondamentales à Athènes. Les Athéniens étaient à la fois enracinés dans leurs terres autochtones. Ils y tenaient absolument et ils savaient courir les mers. Ils étaient marins. Comment allier les deux ? Comment combiner ces deux mondes ? Ce n'était pas évident. La terre, la mer, ce n'est pas pareil. La terre est stable, sauf quand elle tremble. Elle est immuable. La mer, elle, c'est l'ouverture. Elle est changeante, dangereuse, infinie. C'est un abîme qui se soulève en tempête. Ce n'est pas un hasard si le dieu qui met en danger la terre, qui la fait trembler et la brise, est un dieu marin, Poséidon, le dieu des séismes, armé de son redoutable trident. Allier l'Athènes solide, rocheuse et terrienne, et l'Athènes ouverte sur le monde, parce qu'elle maîtrise les mers, cela a demandé aux Athéniens un immense travail d'imagination. La question qui nous guidera est, les fils de la terre ont-ils le pied marin ? Elle peut servir de titre à cet épisode. Naître de la terre-mère, cela pouvait arriver dans les mythes. Il y a beaucoup d'histoires de créatures autochtones nées du sol. Mais ce ne sont en général pas des histoires heureuses, ça finit très mal. Les êtres nés de la terre, et non pas d'une mère et d'un père humain ou divin normaux, sont souvent des brutes, des violents. Il s'agit de mâles, pas de femmes, qui ne survivent pas longtemps. Les plus connus des êtres nés de la terre sont les géants. Ces êtres colossaux, immenses, qui ont menacé les dieux de l'Olympe. Déjà, leur naissance n'a pas été un heureux événement. Selon le poète Hésiode, ils sont nés d'une violence inouïe. Ils sont les produits d'une union sanglante du dieu ciel, Ouranos, et de son épouse, la déesse terre, Gaïa. Union peu amoureuse, car ce n'est pas la semence du dieu masculin, ciel, qui a fécondé la terre, mais le sang qui a coulé de sa blessure, quand le jeune dieu Cronos, fils du dieu ciel et de terre, a châtré son père d'un coup de serpe. Un soir, le ciel voulait s'unir à son épouse, la terre. Son fils, qui était dans le ventre de sa mère, le châtre. Le père hurle, se retire brusquement. Le fils jette le sexe de son père coupé au loin, et le sang s'écoule de la blessure paternelle. Ce ruissellement inattendu est fécond, nous raconte le poète Hésiode dans son poème sur la naissance des dieux.
Les gouttes sanglantes qui en jaillirent, terre les reçut toutes. Une fois tourné le cercle des années, elle mit au monde les érinies puissantes et les grands géants qui flamboient dans leurs armes de longues lances à la main.
Cronos, le fils, avait ses raisons d'en vouloir à son père ciel. Ce père, jaloux, ne voulait pas que ses enfants naissent. Il aimait bien les concevoir, mais il ne voulait pas qu'ils sortent du ventre de leur mère, la terre. Il avait peur d'eux. Châtrait leur père, était pour les enfants de ciel et de terre le seul moyen d'accéder à l'air libre, de naître vraiment. Nés d'une violence extrême, les géants furent violents. Ils se rebellèrent contre les dieux de l'Olympe et furent écrasés, éliminés par eux. L'un d'entre eux, Alcyoneus, en bon fils de la terre, était invincible tant qu'il touchait sa terre natale. Chaque fois qu'on le jetait à terre, il reprenait des forces. Il a fallu le tirer par les cheveux, loin de sa terre, pour en venir à bout et l'écrabouiller. On est loin du mythe de l'autochtonie heureuse des Athéniens. Ces géants tonitruants ne sont que des forces de destruction. Une autre autochtonie très célèbre avait une signification politique, comme à Athènes, mais elle ne fut pas heureuse. Elle fut à l'origine de désastres. C'est l'autochtonie qui a créé la ville de Thèbes, la ville grecque, pas la ville d'Égypte. On raconte que les Thébains ont comme origine 5 guerriers sortis de terre tout en armes. L'histoire de cette naissance guerrière est vraiment bizarre. Tout commence loin de la Grèce, en Asie. Un prince du pays de Phénicie, le Liban actuel, est inquiet. Sa sœur Europe a disparu. En fait, elle a été enlevée par Zeus. Le dieu s'est transformé en taureau et a couru loin sur la mer pour emmener Europe en Crète. Là, leur union a fondé une dynastie, celle du roi Minos. Le frère d'Europe qui la cherche partout s'appelle Cadmos. Il ne trouve pas sa sœur, bredouille, honteux, il n'ose pas rentrer chez lui. Il demande au dieu Apollon, dans son sanctuaire de Delphes, où il doit habiter désormais, puisqu'il ne peut plus revenir en Phénicie, dans la maison de son père. Apollon lui fait une réponse étrange, qui l'éloigne à jamais de sa patrie. Il lui dit de suivre la vache qu'il rencontrera en sortant de son sanctuaire et de fonder une ville là où la vache s'effondrera de fatigue. Ovide, le poète latin, raconte.
Une vache, lui dit Phébus, viendra à toi dans ces plaines isolées. Elle ne portera aucun joug, sera libre de la charrue courbée. Elle est ton guide, suis-la. Et dans l'herbe où elle trouvera le repos, construis tes murailles et appelle ce lieu la Béotie.
Cadmos repère la vache, il la suit. Arrivé au pays que Cadmos va appeler la Béotie, ce nom veut dire le pays de la vache s'écroule. Cadmos se prépare à la sacrifier et envoie ses compagnons chercher de l'eau pour la cérémonie. Les compagnons ne reviennent pas. Cadmos découvre qu'ils ont été dévorés par un immense animal, un serpent qui vivait dans une grotte. Cadmos se bat contre ce serpent-dragon et finit par le tuer. Se passe alors quelque chose d'extraordinaire. Une divinité, Arès, le dieu de la guerre, ou peut-être Athéna selon les versions, arrache les dents du dragon et les sème dans la terre. Cadmos avait reçu l'ordre d'y tracer des sillons avec une charrue.
Là, c'est trop pour le croire, les mottes de terre commencent à bouger. Hors d'un sillon, le bout de la pointe d'une lance paraît. Bientôt des hochements de tête casqués de cônes de couleurs, bientôt des épaules, des poitrines, des bras chargés d'armes sortent, une moisson armurée d'hommes se lève. Comme au théâtre les jours de fête, quand s'ouvre le rideau, des formes surgissent, d'abord montrent le visage, le reste peu à peu, menées à un rythme paisible, elles se présentent et, au bord de l'estrade, posent les pieds.
Ces guerriers sont menaçants. Une version de la légende dit que Cadmos, pour les effrayer, leur jette des pierres. Les guerriers pensent que l'attaque vient de leur propre rang. Ils commencent à s'entretuer. Seulement 5, choisis au hasard, On dit parfois que ça s'est joué au dé, survivent. Ces cinq deviendront les fondateurs des grandes familles qui vont peupler la ville de Thèbes. L'autochtonie violente de ces guerriers débouche bien sur un ordre politique. Mais cet ordre est en fait désastreux. Les descendants de Cadmos et des cinq survivants vont créer une ville magnifique, majestueuse. Thèbes sera riche en or, en troupeaux, et sera entourée de remparts extraordinaires, avec sept portes, comme il y a sept cordes sur la lyre. Mais cette ville merveilleuse ira de désastre en désastre, née dans la violence, avec des autochtones qui commencent par se tuer les uns les autres. Thèbes va vivre une série continue de conflits intérieurs. Cadmos, les cinq, vont engendrer des générations de malheurs. Avec la famille du roi Penthé, qui sera déchirée par sa mère, rendue folle par Dionysos. Avec la famille d'Oedipe, qui va connaître l'inceste et dont les derniers descendants vont s'entretuer, comme se sont massacrés les guerriers nés des dents du dragon. La fermeture sur soi est finalement stérile. Cette ville grandiose, très riche, est en fait une ville de la discorde, de la guerre intérieure, qui finit par se détruire. Une ville maudite. La terre-mère, dans cette autochtonie cruelle, sanguinaire, est une force féconde, proliférante, qui ne connaît pas de limites et qui ne débouche sur aucun ordre durable. Il est frappant que le frère et la sœur, Cadmos et Europe, vont produire chacun de son côté, par leur exil, deux modèles opposés de cité, qui seront deux contre-modèles pour Athènes. Cadmos, en suivant sa vache, va fonder une ville de terre qui va s'effondrer. Europe, emportée sur la mer par un taureau divin, va être à l'origine, en Crète, d'un empire maritime, l'empire du roi Minos, fils de Zeus et d'Europe. La Crète, ouverte sur la variété infinie de la mer conquérante, va être un royaume puissant où se mêlent des populations d'origines différentes, de langues différentes, contrairement au mythe qu'Athènes s'invente pour raconter son origine autochtone. Homère, dans l'Odyssée, insiste sur le caractère mélangé, cosmopolite de la Crète, puissance maritime composite.
Il y a une terre, la Crète, bien au milieu de la mer couleur de vin. Elle est belle et plantureuse, couronnée de flots. Là, les hommes vivent en foule infinie, dans 90 villes. Les langues des uns et des autres se mélangent. Là, on est achéen, ou on est crétois authentique et grand de cœur. Ou kidonien, on est dorien, en trois tribus, ou pélage divin. Parmi ces villes, il y a Knossos, l'immense cité. Là, Minos a été roi pendant 9 saisons et le confident du grand Zeus.
Thèbes, la ville autochtone qui se détruit elle-même, est le contre-modèle absolu pour Athènes. La Crète, empire marin et mélangé, puissant et hétérogène, est une menace énorme pour Athènes. Le conflit va être rude. Athènes, à la fois autochtone et ville de mer, devra être différente de ces deux modèles. La Crète va essayer d'asservir Athènes. Il faudra Thésée et sa victoire en Crète sur le Minotaure pour qu'Athènes soit libre.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Trouble don't last like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just be your light, and don't you give up now. There'll be strife, but we're gonna dance it out. When the pain is released and your love will increase, and the power will show in your love light. Show.
Judée de la Combe se demande comment les Athéniens ont pu être à la fois autochtones et marins.
Les légendes sur les origines d'Athènes sont très confuses, partielles. Nous n'avons pas de grands récits sur cette fondation. Il paraît que le premier roi de ce qui allait devenir Athènes, et qui n'était encore qu'une terre à peine habitée, était un mortel dénommé Kécrops. Il était né de la terre et avait un corps double, à la fois humain et serpent. On ne sait pas grand-chose de lui. Il eut un rôle essentiel dans l'histoire de la ville. Kécrops appartenait à une génération ancienne, peut-être heureuse. On dit qu'il a instauré le mariage. On dit que sous son règne, les femmes pouvaient voter. Mais vint le jour où les dieux de l'Olympe se sont intéressés aux communautés humaines et ont décidé de se les attribuer une par une et d'y imposer leurs lois avec rigueur. Des conflits entre les dieux allaient naître. Poséidon, le frère de Zeus, dieu du mouvement des chevaux, des vagues de la mer et des séismes, avait des visées sur le lieu qui allait devenir Athènes. Il va chez Kécrops et déclare aux habitants qu'il leur fait cadeau d'un grand bienfait. En réponse, ces gens devront le reconnaître comme dieu souverain pour leur contrée. Monté sur la colline rocheuse de l'Acropole, Poséidon frappe violemment la terre avec son trident, l'arme des pêcheurs. Il fait jaillir dans la roche une mer d'eau salée. Elle existe toujours. La ville est promise ainsi à un grand avenir maritime. Mais arrive Athéna, fille de Zeus. Elle propose un autre cadeau et demande également en échange la souveraineté sur la ville. Elle fait surgir de la terre, toujours sur l'Acropole, non pas de l'eau salée, mais un olivier, arbre encore inconnu, merveilleux. Il y est toujours, ou un de ses successeurs. Il y a querelle. Quelle divinité va régner sur Athènes ? Athènes sera-t-elle une ville de mer ou une ville de terre ? La décision doit être prise. Là, les légendes divergent. Selon certaines, Kécrops avait l'autorité pour choisir. Il choisit Athéna et son cadeau, disant, paraît-il, qu'elle apportait quelque chose de totalement inconnu. C'est la première fois que t'es planté un olivier. Selon d'autres versions, la population aurait voté, et même les femmes qui auraient voté pour Athéna. D'autres disent que ce sont les 12 dieux de l'Olympe qui ont choisi. Ils ont opté pour Athéna. Triomphante, Athéna donne son nom au lieu qu'il a choisi. Ce lieu s'appelle désormais Athènes. Poséidon, nous dit un tardif raconteur de mythes, est furieux. Il fait disparaître l'Attique sous un déluge. Puis, un moment ou l'autre, l'ordre revient. Athéna peut régner. Le décor est planté. L'autochtonie athénienne, avec Kécrops née de la terre, née de Gaïa, oh, mi-homme, mi-serpent, s'est soumise à l'autorité d'une déesse olympienne, Athéna, déesse qui a fourni aux Athéniens la possibilité de survivre, avec l'olivier et ses feuilles toujours brillantes, avec ses fruits si nourrissants, les précieuses olives. Elle est aussi la déesse de la technique, de la guerre. Mais Poséidon, dieu de la mer, de la future grandeur impériale d'Athènes, comment pourra-t-il être réintégré? Cela demandera beaucoup d'inventions mythiques, rituelles, architecturales aux Athéniens. Nous essaierons de voir la semaine prochaine comment ils ont fait. Ils ont réussi, mais ça a été rude.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. Bonne journée sur France Inter.